Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 28 août 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les Algériens protestent contre la présence du président français Emmanuel Macron dans leur pays. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, inondation au Pakistan, le président Raisi s'entretient au téléphone avec Shahbaz Sharif. La deuxième étape de la politique de bon voisinage consiste à promouvoir la coopération multilatérale et régionale, précise Téhéran. Et puis l'Iran dévoile son dernier drone de précision 100% national. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Suite aux inondations soudaines et meurtrières causées par les fortes pluies de mousson qui ont tué des centaines de personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres au Pakistan voisin, le président iranien Ebrahim Raisi a présenté ses condoléances et exprimé sa sympathie au gouvernement et au peuple du pays. Lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, Ebrahim Raisi a déclaré prêt Téhéran à fournir à son voisin toute forme d'assistance. Le président de la République islamique d'Iran a déclaré qu'il avait chargé les organismes compétents de dépêcher les premiers secours aux populations pakistanaises touchées par les inondations dès que possible. Il a ajouté que l'Iran reste un ami du Pakistan en période de difficulté et cherche à donner suite à ses relations bilatérales cordiales et solidaires. Le premier ministre pakistanais a pour sa part remercié la République islamique d'avoir été aux côtés de son pays au moment difficile. La deuxième étape de la politique de bon voisinage consiste à promouvoir la coopération multilatérale et régionale. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques, Ali Boreri Kani, a rencontré Mohammad Ben Abdelaziz Bin Saleh Al-Khulaifi, l'adjoint du ministre qatari des Affaires étrangères, chargé des affaires régionales, et la délégation qui l'accompagne samedi soir, et a discuté des relations bilatérales ainsi que les développements régionaux et internationaux. Se référant à l'expérience réussie de mise en œuvre de la politique de bon voisinage dans le gouvernement d'Ibrahim Raisi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques a déclaré lors de la rencontre, dixit, la deuxième étape de la politique de bon voisinage consiste à promouvoir la coopération multilatérale et régionale. Soulignant le renforcement des relations privilégiées Téhéran-Doha, en particulier au cours de la dernière année, le haut diplomate iranien a déclaré « Nous saluons le rôle efficace du Qatar dans l'avancement de la deuxième étape de la politique de bon voisinage de l'Iran et la promotion de la coopération régionale multilatérale. » Le diplomate iranien, chargé des affaires politiques, a considéré l'attention portée à la question de Palestine comme un devoir humain et islamique de tous les pays de la région et a déclaré « La stabilité de tout arrangement régional dépend de la réalisation des droits du peuple palestinien ». Se référant au point commun historique des deux pays, lors de cette réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères du Qatar a également souligné les relations croissantes entre le gouvernement qatari et la République islamique dans toutes les dimensions et a considéré la rencontre des responsables des ministères des Affaires étrangères des deux pays comme une base pour l'expansion des relations bilatérales. Nous avons une réponse solide à tout mal et agression, déclaration du président du Parlement iranien. Nous ne cherchons pas à conquérir aucun pays, mais nous avons une réponse solide à tout mal et agression qui nous vise, a déclaré samedi le président du Parlement iranien, soulignant que l'équipement de défense de l'Iran renforce son pouvoir de dissuasion. Mohammad Borel Ghalibov, président du Parlement iranien, s'exprimant en marge de la visite de l'exposition de l'industrie de la défense iranienne à Téhéran ce samedi, a déclaré que les efforts du ministère de la Défense et des forces armées aujourd'hui servent de garantie pour créer, dixit, la dissuasion et prévenir de futures guerres. La doctrine de défense de la République islamique d'Iran est d'établir la paix et la stabilité, de défendre les opprimés et nous ne cherchons pas à conquérir le pays, mais nous avons une réponse solide à tout mal et toute agression, de sorte que le mouvement des industries de défense est une démarche prometteuse, a-t-il conclu. L'Iran a dévoilé son dernier véhicule aérien sans pilote de frappe de précision fabriqué par les forces armées du pays. Le drone, baptisé Abobil, a été équipé d'un autodirecteur optique et d'une ogive capable de détecter des cibles. Il est également capable de capturer et de relayer des images en direct des cibles et de les détruire avec précision. L'Iran a réalisé de grandes avancées dans le domaine des drones ces dernières années. En août, le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a déclaré que le pays était devenu un exportateur de drones militaires. L'année dernière, le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain, a également déclaré que l'utilisation généralisée des drones par l'Iran signifie que les États-Unis opéraient dans la région sans une supériorité aérienne complète pour la première fois depuis la guerre de Corée. Notre sécurité est meilleure qu'en Europe, les touristes ne doivent pas s'inquiéter, a déclaré le ministre de l'Intérieur de la République islamique d'Iran. Il a considéré ce qui s'exprime sous la forme d'iranophobie dans le but d'empêcher les touristes de venir en Iran comme illogique et incorrect et a déclaré « Notre sécurité est probablement meilleure qu'en Europe. Les touristes ne devraient pas s'inquiéter quand ils voyagent en Iran. » Depuis des années, l'appareil de propagande des médias étrangers fait la promotion de l'iranophobie dans l'opinion publique mondiale. Il n'est pas étonnant que lorsque les statistiques montraient la croissance des touristes étrangers en Iran, les publicités anti-iraniennes et iranophobes dans les médias et les réseaux sociaux prennent immédiatement une tendance à la hausse. Dans une interview avec le journaliste touristique de l'IRNA, Ahmad Vahidi a déclaré « La sécurité dans notre pays est très bonne, même comparée aux pays européens. Notre sécurité est probablement meilleure. Ce que d'autres ont essayé d'exprimer sous la forme d'iranophobie pour empêcher les touristes de venir en Iran sont des mots illogiques et incorrects. Le tourisme est un outil efficace pour lutter contre l'iranophobie, a-t-il dit. Le ministre de l'Intérieur a poursuivi « Nous n'avons pas de problème de sécurité, bien sûr. Parfois, ils amplifient un problème dans notre pays. Ces problèmes existent naturellement dans d'autres pays et sont abondants. Ils ne gonflent pas leurs problèmes, mais dans notre pays, un tout petit problème devient trop gros et médiatisé. » Monsieur Vahidi a conclu « Dans tous les cas, notre sécurité est très bonne et les touristes ne devraient pas s'inquiéter lorsqu'ils se déplacent vers l'Iran. » Et un mot du sport, Coupe du monde de volleyball 2022, la victoire de l'équipe iranienne face à l'Argentine. L'équipe nationale iranienne de volleyball a battu l'Argentine 3-2 lors du premier match de Coupe du monde de volleyball 2022. Au championnat du monde ou dans le groupe F, l'Argentine, médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques, s'est inclinée d'entrée 3-7-2 face à l'Iran. L'équipe nationale iranienne de volleyball affrontera l'Égypte lors du deuxième match du Coupe du monde de volleyball lundi 29 août à 20h. Il faut rappeler que la Coupe du monde réunit 24 équipes. Les équipes seront divisées en 6 zones de 4 membres et chacune jouera 3 duels dans cette étape. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les 8e de finale, ainsi que les 4 meilleures équipes classées 3e. Et puis l'équipe d'Iran remporte les championnats d'Asie junior 2022. L'équipe d'Iran Junior de Taekwondo, composée d'athlètes masculins et féminins, a remporté samedi le titre de championne des championnats d'Asie de Taekwondo 2022 au Vietnam. Les juniors iraniens ont empoché 15 médailles colorées, dont 11 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, et ont remporté la 11e édition des championnats asiatiques de taekwondo junior, qui ont débuté vendredi avec la participation de 285 joueurs de taekwondo de 28 pays à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Chez les hommes, l'Iran s'est classé premier avec 5 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, dépassant la Corée du Sud et la Chine. Tandis que chez les filles, la taekwondo junior iranien a remporté 6 médailles d'or. La Chine et la Corée du Sud se classent respectivement 2e et 3e. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Des dizaines d'Algériens ont manifesté samedi contre la visite du président français Emmanuel Macron dans leur pays. Selon la chaîne turque TRT, lors de sa visite dans la ville d'Oran en Algérie, il a fait face à des protestations des habitants de cette ville. Selon le rapport, à la suite de ces protestations populaires, Macron a écourté son voyage et a dû quitter la ville. Il y a 2 jours, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France et l'Algérie ont un passé compliqué qui ne permet souvent pas aux relations franco-algériennes d'évoluer vers un avenir meilleur et que ce passé ne doit pas être un obstacle pour l'avenir. Il a ajouté: « Nous n'avons pas choisi le passé, nous en avons hérité, c'est un bloc. Nous voulons le regarder et le reconnaître, mais nous avons la responsabilité de construire notre avenir pour nous-mêmes et pour notre jeunesse », ajoutait le chef d'État français. Monsieur Macron a souligné la volonté de son pays de développer la coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises, de la recherche scientifique et de la coopération universitaire entre les universités des 2 pays, du sport et de l'éducation, ainsi que la détermination de son pays à mettre en place une commission mixte. Il a souligné l'importance d'une coordination continue entre l'Algérie et Paris sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, ainsi que sur les grands événements internationaux. Enfin, M. Macron, en son nom et au nom du peuple français, a de nouveau exprimé ses condoléances à l'Algérie pour les victimes des récents incendies dans plusieurs de ses départements de l'Est et du Nord. Monsieur Macron est parti pour l'Algérie jeudi à la tête d'une délégation de haut rang. Il s'agit de la première visite du président français en Algérie depuis 5 ans. Les relations franco-algériennes se sont détériorées en octobre dernier lorsque M. Macron a accusé le gouvernement algérien d'utiliser les souvenirs de la guerre d'indépendance pour survivre. Emmanuel Macron est de retour à Paris. Il a clôturé ce samedi sa visite en Algérie après 3 jours sur place. La question qui se pose, c'est que quel bilan pour ce déplacement ?
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Nous sommes le samedi 27 août et en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans cette édition de débat, nous allons évoquer la visite d'Emmanuel Macron, le président français, en Algérie. Alors que le président français et les médias français prétendent que cette visite est dans le cadre de l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie, mais également des échanges économiques en ce qui concerne le domaine du gaz et du pétrole algérien, il semblerait que cette visite n'est pas sans lien avec ce qui se passe en ce moment au Sahel, notamment au Mali, où la France, ses forces Barkhane ont été expulsées, les accords militaires ont été rompus et le Mali cherche même à faire traîner la France devant la justice internationale, à savoir avoir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Alors cette visite, est-ce que cette visite serait dans la... visite en fait dans la ligne du fait que Macron voudrait nouer des liens avec l'Algérie afin de faire compenser ce qui s'est passé au Mali. La réponse dans quelques instants avec nos 2 invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
Emmanuel Macron est arrivé jeudi 25 août en Algérie. Lors d'une première prise de parole, le chef de l'État a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Que pensent les Algériens de ce déplacement du chef de l'État français et qu'en attend-il? La France n'est pas le premier pays ces derniers mois à tenter d'obtenir plus de gaz de son partenaire algérien. Mario Draghi est venu signer en juillet un nouveau contrat de 4 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires pour l'Italie alors qu'il était plongé dans une crise politique qui allait faire tomber son gouvernement. En octobre 2021, des propos d'Emmanuel Macron reprochant au système politico-militaire algérien de surfaire sur la rente mémorielle et ses interrogations sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation ont fini de consommer la rupture. Dans les rues d'Alger, le président français est attendu 7 fois avec circonspection. En 2017, avant qu'il ne soit président, il a bien parlé. Il a fait sa visite, mais juste après son retour en France, il a changé. Il a tenu un autre discours, des pleurs ottomanes. Abdellouche, 62 ans, docteur en informatique. Macron, on lui dit « Bienvenue en Algérie, si les intérêts sont communs, nous sommes d'accord. S'ils ne sont que du côté français, alors c'est non. » Renchéri Ramdan Elbaz, 60 ans, un retraité.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Presse TV français. Nous avons 2 invités en direct avec nous. Bernard Cornu, politologue depuis Vaucluse, la France, et Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Cornu, je commence avec vous si vous voulez bien. Bonjour et bienvenue sur le débat du jour. Alors, à votre avis, quels sont les réels objectifs de cette visite de Macron en Algérie? On sait bien, les relations entre les deux pays se sont dégradées il y a quelques mois après les propos interventionnistes d'Emmanuel Macron. Alors, quels seraient pour Macron les réels objectifs de cette visite?
L'objectif principal est certainement d'améliorer, de restaurer la relation qui s'était dégradée à partir de alors entre eux. Parce que cette relation est essentielle, vu l'importance de la communauté algérienne ou des descendants d'Algérie, vu le maintien encore de difficultés pour reconnaître l'ensemble des faits sur la colonisation et sur la guerre d'Algérie, sur ce qu'on appelait les événements qui sont terminés en 1962. Donc il y a beaucoup de contentieux à régler par des échanges peut-être plus approfondis. Un autre objectif était certainement lié à cette amélioration des relations, pouvoir avoir le droit de survol des avions militaires français qui continuent leurs opérations militaires, mais non plus à partir de bases, et à partir d'autres bases, au Niger principalement. Et puis aussi de tâcher d'avoir une discussion approfondie sur les raisons profondes du développement de mafias terroristes dans ces territoires du Sahel, qui pour moi sont principalement liés aux différences de coûts des carburants entre l'Algérie, voire la Libye et le Soudan, qui ont des prix très bas, lors de 17 centimes d'euros ou de dollars, et les prix au Sahel, qui sont beaucoup plus élevés, lors de 1,10 euro, 1,20 euro, et alors que les carburants sont essentiels dans cette région où il y a beaucoup de véhicules tout-terrain, où les distances entre les endroits sont longues et les terrains difficiles. Et donc pour l'économie locale, les carburants sont essentiels. Donc le fait qu'ils soient très chers au Sahel et peu chers sur les pays côtiers, Algérie et Soudan, fait qu'il y a de la contrebande et ceci depuis très longtemps. Ces contrebandes, des mafias, de la corruption, et il est, à mon avis, il faut discuter de ceci pour avoir une convergence des tarifs et diminuer la contrebande, donc diminuer les mafias qui sont, à mon avis, des nourrices du djihadisme, du terrorisme dans cette région.
Merci pour vos explications. Restez avec nous, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Michel, vous venez d'entendre les explications de Monsieur Cornu. D'un autre côté, il y a le sujet du Mali. La France, Barkhane, est désespérée, désemparée au Mali, expulsée du Mali. Une première peut-être dans toute l'histoire de l'Afrique où elle a subi une histoire colonialisme par la France, mais aussi des autres pays occidentaux. Donc, à votre avis, est-ce que dans ce cadre, le seul objectif de Macron pourrait être seulement de renouer des liens avec l'Algérie ?
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue et à nos téléspectateurs. Je ne partage pas du tout cette opinion. Ce n'est absolument pas la relation bilatérale avec l'Algérie qui est en cause. Macron démontre une fois de plus qu'il est le roi du rouble discours. Ce qui est en cause, c'est le dossier malien, comme le montre la présence du chef d'état-major français dans l'agrégation, le général Burkhardt, et de l'autre, c'est le dossier ukrainien, celui du gaz, comme le démontre la présidente du conseil d'administration de Engie, Excellence Rabel, la multinationale française de l'électricité. Mais en réalité, la visite de Macron, c'est surtout un piège pour les Algériens. Les Algériens sont placés au pied du mur. Soit ils restent fidèles à l'axe Alger-Moscou-Bamako, c'est-à-dire à l'alliance géopolitique anti-française, soit ils veulent faire des accords et des affaires avec les Français comme ils en ont fait avec les Italiens. Et dans ce cas, ils ont tout à perdre sur le long terme dedans.
Merci pour vos explications. Restez avec nous, restez en ligne. Monsieur Cornu, en ce qui concerne la question de l'énergie, on sait bien que l'Europe est en manque de gaz et de pétrole, surtout suite à cette crise russo-ukrainienne. Est-ce qu'Emmanuel Macron serait en quête du gaz et du pétrole algérien après ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine ?
Bien sûr, il peut y avoir des accords pour augmenter un peu les livraisons, mais de toute façon, les livraisons de gaz algérien sont marginales dans le mix énergétique français. L'Italie a pris les devants. Il y a un contentieux entre l'Algérie et l'Espagne pour le transit du gaz, lié à la position politique de l'Espagne vis-à-vis du territoire du Sahara occidental que revendique le Maroc et qui fait l'objet aussi d'une soutien de l'Algérie au mouvement, disons, autonomiste du Sahara espagnol. Voilà, donc, mais ce problème du gaz, à mon avis, est marginal. Je pense encore qu'une fois que le problème des tarifs des énergies, avec les taxes très faibles, et même des subventions finalement en Algérie pour le gaz, nécessite une coopération renouvelée sur les plans techniques, sur les plans politiques avec l'Algérie pour mettre fin à ces différences de tarifs qui sont une cause de contrebande et donc de corruption et de développement de mafias multiformes dans cette région entre les pays de la côte méditerranéenne sud et les pays du Sahel, où les carburants sont un outil essentiel pour les vies économiques locales. Donc la délégation est très importante, il y a une centaine de personnes, il y a même des députés de l'opposition, il y a la ministre chargée de la culture qui est d'origine libanaise, on la voit tout près du président, il y a des visites peut-être marginales mais à Oran sur le disco, il y a un hommage quand même aux Européens qui sont morts en Algérie pendant ces événements de la guerre. Donc la situation de la relation est complexe et je ne pense pas que le sujet militaire soit le seul. Je crois que les transformations sociales de l'économie algérienne sont certainement au menu, mais ce n'est pas sûr que pour le respect de la souveraineté algérienne que ces discussions soient évoquées publiquement.
Merci pour vos explications, Monsieur Michel. En ce qui concerne ce qui se passe en ce moment au Mali, il semblerait qu'il y ait une guerre anticolonialiste qui a commencé au Mali, mais qui s'étend vers les autres pays de l'Afrique et aussi du Sahel. Est-ce que l'Algérie serait la clé pour la France de cette guerre, pour l'avoir dans son camp? Et est-ce que l'Algérie tombera dans le piège de la France?
Mais je pense au contraire que les dossiers militaires et ceux du gaz sont centraux dans cette visite, une fois de plus. Macron ment aussi bien aux Algériens qu'aux Français lorsqu'il prend des prétextes pour cette visite. La France a été mise dehors du Mali. Elle est victime de l'hostilité des populations Burkina Faso ou au Niger africaine. Et donc, les Français sont tentés par suppléer par des positions en Algérie leur perte d'influence militaire. La question de l'énergie, c'est-à-dire de la fourniture du gaz, au moment où on annonce des pénuries d'électricité et de gaz et où la population française va subir de plein fouet la paupérisation due à la guerre américaine en Ukraine, évidemment, elle est essentielle pour Macron. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, que les Algériens font une erreur simplement en acceptant de discuter de ces problèmes. Parce que la position de l'Algérie jusque maintenant, elle était aux côtés de la Russie et du Mali. La Russie est le principal partenaire de l'Algérie dans la lutte pour le contrôle de la Méditerranée occidentale et face au Maroc. Et dès lors, les Algériens n'ont rien à attendre de la France. Le reste, on voit Macron d'ailleurs qui voulait véritablement un accord bilatéral sur les questions historiques ou mémorielles avec l'Algérie. Il ne prendrait pas encore cette position arrogante qui lui a fait notamment déclarer qu'il n'était pas question d'une repentance. Lorsqu'on veut saluer les victimes européennes de la guerre d'Algérie, les harkis et la communauté des pieds noirs qui est réfugiée en France, évidemment, on ne peut pas être de ce côté-là et en même temps vouloir la paix avec les Algériens. Il faut venir sur les plateaux africains pour entendre les panélistes algériens. Ils sont indignés. Et ils sont figés dans une posture anti-française légitime.
Monsieur Michel, il y a aussi une autre question qui se pose. C'est la normalisation du régime sioniste avec divers pays, les pays du Golfe Persique, mais aussi des pays africains, dont le Maroc. Est-ce que, à travers cette visite, Emmanuel Macron chercherait en quelque sorte aussi de faire rapprocher l'Algérie d'Israël et de prôner à la normalisation entre l'Algérie et le régime sioniste?
Écoutez, c'est un dossier marginal maintenant depuis que l'affaire ukrainienne a commencé, mais il est bien certain que Macron est un allié des États-Unis et d'Israël, c'est-à-dire des deux puissances qui ont amené au Maroc et au Sahara espagnol les sionistes. À partir de ce moment-là, il est tout à fait normal qu'un rapprochement de l'Algérie vers la France sera une atténuation des positions anti-sionistes de l'Algérie. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à cette possibilité d'accord, tout simplement. Parce que si ça irait à l'inverse des positions de l'Algérie depuis de nombreux mois.
Merci pour vos explications. Monsieur Cornu, qu'en pensez-vous des explications de Monsieur Michel? Est-ce qu'à votre avis, cette visite aurait des objectifs au-delà juste des accords bilatéraux et un rapprochement entre les deux pays?
Non, si j'ai bien compris les propos, les arguments de Monsieur Luc Michel,
oui.
C'est toute la question du Sahel, de l'éviction de la France au Sahel qui serait discutée. Cet affaiblissement de cette position militaire française. Moi, ce que je dis, c'est effectivement une chose très importante qui a été très grave pour l'image de la France, cette éviction de la France et cette tentative d'action en justice internationale du Mali, qui n'a évidemment pas abouti, puisque la France, qui ne peut difficilement aboutir, puisque la France a un droit de veto. Mais pour moi, ce que je dis, c'est que les moyens d'arrêter les actions de terroristes, c'est d'arrêter la source, les mafias qui sont à la source de ces tensions aux frontières de plusieurs pays et qui sont en grande partie alimentées par les trafics des carburants entre les pays côtiers, Algérie, Libye, Soudan, et les pays du Sahel où les carburants sont très chers. Donc, quant à l'inflexion d'une politique envers la reconnaissance d'Israël, ça, c'était évidemment exclu. Je partage tout à fait les idées de M. Michel. La population algérienne réagirait très fortement, comme d'ailleurs elle a réagi au Maroc, s'il y avait en Algérie des inflexions de la politique. C'est un pays qui s'est créé en tant que pays indépendant après une longue résistance populaire face au colonialisme français. Le peuple algérien, les dirigeants algériens, les intellectuels algériens ont toujours soutenu la lutte de la résistance palestinienne face à l'occupation, face aux guerres, face aux destructions. Le Croissant Rouge algérien a aidé les gens de Gaza après toutes les agressions de l'État israélien. Donc il est exclu que Macron espère une inflexion de la politique algérienne vis-à-vis du problème de la tension israélo-palestinienne vis-à-vis de l'occupation israélienne.
Merci à vous. Monsieur Michel, alors, en ce qui concerne cette visite, mais les prochains jours, les mois à venir après cette visite, et compte tenu de ce qui se passe au Sahel, au Mali notamment, à quoi devrait-on s'attendre en ce qui concerne non seulement les relations France-Algérie, mais France-Afrique?
On doit s'attendre à une dégradation de ces relations parce que le schéma général, il est à l'éviction de la France de ses positions africaines. Et ces positions ne sont pas uniquement soutenues par les panafricains sous les colonels de Bamako. C'est également la volonté des Américains. Les Américains veulent américaniser la guerre du Sahel et ils veulent dégager les Français du précaré français pour les recoloniser en mer Rouge et au Mozambique. La France est donc prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les panafricains. L'enclume, ce sont les Américains. La dégradation des Français dans toute l'Afrique, elle va s'accentuer, d'autant plus que les Russes qui mènent une guerre hybride avec succès dans toute l'Afrique, et les Iraniens également, ils visent les Français qui sont le ventre mou de l'impérialisme occidental en Afrique. La situation du déclassement français en Afrique va donc s'aggraver.
Et pour vous, Monsieur Cornu, vers où iront les relations non seulement de la France-Algérie, mais de la France-Afrique?
C'est vrai, cette tension au Mali, cette éviction de la France au Mali pourrait s'étendre. Il y a évidemment beaucoup de mouvements contre la France et la coopération française, par exemple en République centrafricaine. Ce n'est pas rose partout encore, ailleurs en Afrique. Mais je pense qu'il faut aussi ajouter les efforts de la Chine, les efforts de la Turquie pour s'implanter économiquement en Afrique et militairement. Donc effectivement, la France perd ce sort de monopole issu de son longue histoire coloniale. Mais les Algériens aussi savent que les Russes ont fait des erreurs. Je connais bien l'Algérie, je suis allé voir des immeubles faits dans le sud algérien, à Togourt ou à Ouargla, par des compagnies russes, sans aucune isolation, sans aucune protection. Ces immeubles ne mériteraient que d'être détruits. Et en fait, je peux citer ici que c'est une femme algérienne d'origine, une experte, qui a introduit le concept de sobriété dans les rapports du GIEC. Et je crois que l'Algérie devra avoir une politique un peu plus sobre, moins gaspiller l'énergie. Et donc l'expérience européenne, l'expérience de l'Allemagne, de la France, dans la construction de logements mieux adaptés, permettrait de réduire les consommations, même le gaspillage de gaz et d'électricité en Algérie, ainsi qu'en Libye, et permettrait donc à l'Algérie de disposer plus de gaz à l'exportation. C'est un mouvement qui vient d'être annoncé d'ailleurs en Égypte. Je pense qu'en Algérie, ce serait sain aussi, dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt de l'Afrique, qu'il y ait des réformes de sa politique énergétique, de sa politique des prix. Voilà, donc c'est un sujet technique, mais je pense qu'il est très important aussi pour l'avenir de l'ensemble de l'Afrique.
Merci. Monsieur Michel, vous avez évoqué un shift power entre la France et les États-Unis, en Afrique, notamment au Sahel et les pays voisins. Mais à votre avis, est-ce que les Africains, je veux dire les Maliens, les Burkinabés, les Algériens, les Marocains et tous les Africains sont prêts à accepter un remplacement de la France par les États-Unis, tout simplement?
Non, ils en sont inconscients. Vous savez que je fais quotidiennement des plateaux de télévision et de radio avec des Africains en particulier, des Maliens, des Burkinabés, etc. Ils sont tout à fait inconscients. Les Africains sont focalisés sur ce qui est devenu la haine de la France-Afrique et de la France. Et ils ne se rendent pas compte que la France aujourd'hui n'est plus le danger, que le danger sont les États-Unis. J'emploie une formule pour le résumer. Je dis que l'ombre de la grande marionnette française dissimule la main du marionnettiste américain. Ils ne se rendent pas compte du danger qui est représenté par les États-Unis et l'OTAN. Et bien entendu, lorsque les Américains qui sont déjà installés au Niger viendront remplacer les Français, ce sera un danger beaucoup plus actuel qu'une France en déclassement. Quant à la question de l'écologie, c'est une des thématiques apportées par Anthony Blinken lors de sa tournée en Afrique. C'est une diversion. Le dossier ukrainien a fait que la question du réchauffement climatique qui est réel est devenue aujourd'hui secondaire. Au contraire, les plans européens pour lutter contre le réchauffement climatique sont invalidés par la participation à la guerre américaine en Ukraine. On est notamment en train de remettre en route les centrales au charbon, les industries polluées, polluantes, pour faire place à la crise constituée face à la Russie à qui on empêche la Russie de fournir du gaz et du pétrole. Je ne crois donc pas que l'intérêt des Africains aujourd'hui se situe sur ces débats écologistes. Et d'ailleurs, les Africains eux-mêmes n'en passent absolument pas.
Merci à vous, Monsieur Michel. Comme dernière question, Monsieur Cornu, vous avez évoqué le fait que l'Algérie pourrait prendre des modèles et exemples sur ce qui se passe dans le domaine de l'énergie de la France et des pays européens. Mais à votre avis, avec ce qui se passe en ce moment dans l'Union européenne, les pays européens impliqués indirectement dans l'affaire ukrainienne et ce manque d'énergie qui a poussé les pays européens à frapper à la porte de l'Algérie, du Sénégal et d'autres pays de l'Afrique, est-ce que ces pays sont un bon modèle pour les pays africains?
Disons, je ne dis pas qu'ils fassent faire la même chose, mais il faut s'engager, il faut que les pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb, se lancent aussi dans ces politiques. La Tunisie a commencé, le Maroc un petit peu aussi, l'Algérie est très en retard sur ce point de vue-là et gaspille beaucoup de son gaz et de son électricité. Il y a des leçons à prendre à partir de nos politiques en Europe du Sud, de l'Algérie, de l'Espagne, sur l'application des énergies renouvelables. La France aussi a des exemples à donner. Et je pense que M. Macron n'a plus un pouvoir absolu en France et le recours à du gaz liquéfié qui viendrait des États-Unis, il est très fortement critiqué en France. Donc même si pour l'instant des décisions ont été prises en ce sens, il y aura de fortes résistances. Et comme je sais, puisque je suis un expert de l'énergie, on peut économiser beaucoup encore dans notre consommation de pétrole, notamment, puisque les voitures sont encore vides, elles transportent une personne, 1,2, alors qu'elles pourraient en porter 4 ou 5. Mmh. Donc, s'il y a une crise cet hiver, au moins pour le pétrole, on pourra diminuer très fortement la consommation et ensuite de ça, adapter des comportements et des technologies qui nous feraient encore plus économiser. En Europe et ailleurs, ces énergies fossiles qui sont nocives pour le climat. Je pense qu'à court terme, la guerre d'Ukraine a effectivement envahi les médias, c'est un problème très grave. Les négociations continuent, peut-être plus discrètement. La Turquie a réussi à obtenir un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes et russes aussi. Donc je pense que les négociations continuent pour faire arrêter au plus tôt cette guerre et empêcher effectivement le gaz liquéfié américain d'envahir notre continent alors qu'il est polluant, il est plus cher et qu'il y a des ressources chez les pays voisins de l'Europe et de l'Iran aussi, d'accord, qui pourraient venir compléter et concurrencer de façon régulée le gaz russe pour établir un meilleur marché concurrentiel sur ce produit assez essentiel encore pour nos économies, mais dont le besoin diminuera au cours des décennies prochaines.
Merci pour vos explications. On était avec Bernard Cornu, politologue depuis Vaucluse, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. En vous souhaitant une très bonne journée à toutes et à tous, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir.
Économie.
L'Iran et le Nigeria conviennent de coopérer sur de grands projets pétroliers et gaziers. L'Iran et le Nigeria ont signé un document clé pour étendre leur coopération sur divers projets pétroliers et gaziers. Le protocole d'accord a été signé samedi à Téhéran entre le ministre iranien du pétrole Javad Oji et le ministre d'État nigérian aux ressources pétrolières Timip Silva. Le ministre iranien du pétrole, M. Oji, a déclaré aux journalistes que la signature du protocole d'accord entre l'Iran et le Nigeria aiderait le Nigeria à développer son secteur pétrolier et gazier tout en offrant des services de construction et de maintenance pour les raffineries de ce pays africain. Il a déclaré que les entreprises iraniennes deviendraient également actives au Nigeria pour aider le pays à développer l'utilisation du gaz naturel comprimé GNC, principalement à des fins de transport. Le ministre a déclaré que l'Iran cherchait en retour à utiliser l'expertise existante dans le secteur pétrolier nigérian pour développer son secteur du gaz naturel liquéfié GNL. Rappelons que des entreprises iraniennes ont obtenu des contrats pour construire et rénover des raffineries de pétrole dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole d'Afrique et le sixième plus grand exportateur de GNL au monde. Iran-Tanzanie, les deux parties en quête d'une feuille de route pour accélérer les relations bilatérales. En visite en Tanzanie, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Lors de ma rencontre avec mon homologue tanzanien, nous allons dessiner une feuille de route sur le développement des relations bilatérales dans diverses dimensions sur la base de laquelle nous allons accélérer les rapports et les coopérations mutuelles. » Le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian, s'exprimant au micro des journalistes à son arrivée en Tanzanie jeudi matin, a remercié son homologue tanzanienne pour son invitation officielle et a déclaré « Nous allons tracer une feuille de route lors des entretiens avec mon homologue tanzanien sur le développement des relations bilatérales dans différentes dimensions » sur la base de laquelle nous allons accélérer les relations. Une délégation d'hommes d'affaires, d'industriels et de services gouvernementaux qui m'accompagne dans ce voyage aura une réunion importante à Dar es Salaam. Nous aurons également des discussions avec le président de la Tanzanie et tout en lui annonçant l'invitation officielle de l'ayatollah Sayed Ibrahim Raisi, nous finaliserons une feuille de route qui serait convenue avec Madame la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Liberata Mula Mula, a fait savoir Amir Abdollahian. Pour sa part, son homologue tanzanienne Liberata Mula Mula s'est dite réjouie de la présence du ministre iranien des Affaires étrangères en Tanzanie. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé l'ingérence étrangère en Afrique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue malien Abdoulaye Diop à Bamako, a déclaré que le terrorisme en Asie occidentale et en Afrique est le produit de l'ingérence des pays extra-régionaux. L'ingérence de certains pays extra-régionaux est la raison de la formation de certains groupes terroristes dans la région de l'Asie occidentale et en Afrique, a déclaré Amir Abdollahian lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue malien Abdoulaye Diop à Bamako mardi. Nous sommes d'avis que l'application instrumentale du terrorisme doit être écartée et que les pays doivent être autorisés à agir de manière indépendante, a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. Par ailleurs, le responsable a évoqué les sanctions illégales et inhumaines des États-Unis contre l'Iran, affirmant que la politique d'imposition de sanctions devrait céder la place à une politique de négociation. Il convient de noter que lors de la précédente visite du ministre malien des Affaires étrangères à Téhéran, les deux parties ont discuté de la formation d'une commission mixte pour approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la science, de la technologie, de l'industrie, du commerce, du tourisme, de la santé et de divers sujets d'intérêt commun. Exprimant sa satisfaction quant à la tenue de la première réunion officielle de la commission mixte des deux pays à Bamako, dont les préparatifs étaient à l'ordre du jour des deux pays depuis 6 mois, Hossein Amir Abdollahian a indiqué que la tenue régulière et continue des réunions de la commission mixte et l'augmentation des échanges de délégations techniques, économiques et politiques entre les deux pays conduirait au développement des relations bilatérales. Le gouvernement burkinabé octroie 2 permis d'exploitation d'or à des sociétés locales. Au Burkina Faso, les sociétés locales Estargate Mineria et Vendpanga Or ont obtenu chacune un permis d'exploitation semi-mécanisé d'or, respectivement pour les projets Diatara et Guénim Péré. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenue à Ouagadougou le mercredi 24 août. Pour rappel, les mines d'or du Burkina Faso ont livré 66,85 tonnes en 2021. L'or représente le premier produit d'exportation du pays et contribue largement à la place prépondérante du secteur minier dans l'économie locale. Selon le rapport 2020 de la branche burkinabé de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les mines représentent en effet plus de 12% du PIB. L'aéroport international Blaise Diagne de Dakar a enregistré un trafic passager de 1 185 453 voyageurs au cours des 6 premiers mois de l'année 2022, renseigne AIBDSA, société exploitant l'aéroport, dans une note d'information en date du 18 août. Ce niveau d'activité équivaut à une progression de 1% en comparaison des chiffres du premier semestre 2019. Le trafic a été soutenu par 28 compagnies aériennes qui ont réalisé 12 833 mouvements d'avion vers 45 destinations au total. Selon AIBDSA, cette performance s'aligne sur le redressement amorcé au premier trimestre de cette année, où l'aéroport approchait 90% du trafic passager de 2019, avec 581 393 voyageurs enregistrés.
Thank you.